8h30, c'est le journal de Laurence Thomas. Bonjour Laurence.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous. L'Irak pris dans une tempête de poussière et de sable. Des milliers d'hospitalisations pour des problèmes respiratoires. L'Irak, l'un des pays au monde les plus vulnérables au changement climatique. L'actualité politique avec l'accord validé la nuit dernière entre le Parti Socialiste et la France Insoumise. Et à l'Élysée, les préparatifs pour la cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron. Ce sera demain. Airbnb, une santé insolente. Très bon résultat au premier trimestre 2022. Supérieur à l'avant-Covid. Deux explications, le retour du tourisme et l'essor du travail à distance. Agression, insulte, quand les élus sont menacés. Encore une illustration à Calvignac dans le Lot. Un homme est incarcéré après avoir menacé de mort le maire du village. Et puis le loup continue d'étendre son territoire en France. Il réapparaît dans le Finistère après plus d'un siècle d'absence.
Et dans un quart d'heure, notre rendez-vous du vendredi, le débat éco avec Thomas Piketty et Dominique Seux. Ce matin, un accord à gauche avec quel programme économique ?
France Inter.
Une conséquence du changement climatique, des tempêtes de sable à répétition en Irak.
Elles n'ont fait qu'empirer ces dernières semaines. Bilan, un mort et plus de 5000 personnes hospitalisées atteintes de troubles respiratoires, et cela dans 7 provinces, y compris à Bagdad, la capitale. Et les services météo s'attendent à ce que ces tempêtes de sable se reproduisent tout au long du mois de mai. C'est le reportage à Bagdad de Lucille Wasserman.
Une nouvelle tempête de poussière et de sable balaye Bagdad. En quelques instants, tout est devenu orange. Impossible de voir à plus de quelques mètres. Les habitants qui s'aventurent dehors plissent les yeux, se secouent les cheveux, tous. Des milliers de personnes doivent même prendre la route de l'hôpital à cause de problèmes respiratoires. Dans un service d'urgence au centre de la capitale, le docteur Ayasader prend en charge certains d'entre eux.
Nous allons avoir beaucoup de patients avec des problèmes de suffocation aujourd'hui. La plupart ont besoin d'oxygène et d'une dilatation des poumons à cause de la tempête dehors.
Derrière elle, une femme d'une soixantaine d'années plaque un masque d'oxygène contre son visage. Son mari, à ses côtés, s'inquiète.
Elle fait de l'asthme chronique de manière sévère. Elle a failli mourir la semaine dernière. Ils ont dû la garder une semaine, lui donner un traitement et la mettre sous perfusion.
Ces tempêtes se multiplient en Irak car les pluies sont de plus en plus rares et le désert grignote du territoire. Salman Rahirala, un militant écologiste.
Si rien n'est fait, il n'y aura plus d'espace vert, plus de maisons, plus d'eau potable. L'Irak va tout simplement devenir un désert.
L'Irak se classe parmi les 5 pays les plus vulnérables au changement climatique. Bagdad, Lucille Wasserman, France Inter.
Chasse à l'homme en Israël après une nouvelle attaque meurtrière perpétrée le jour de l'anniversaire de la création de l'État hébreu. 3 morts, 2 blessés graves à Elad, ville près de Tel Aviv, d'environ 50 000 habitants, dont de nombreux juifs ultra-orthodoxes. Il s'agit de la 6e attaque anti-israélienne depuis le 22 mars dernier. Correspondance de Frédéric Mettezo depuis Jérusalem.
Les victimes ont été visées par des tirs et frappées à coups de hache vers 20h30, heure locale. Comme à Bnei Brak, attaquée le 29 mars, Elad est une ville peuplée majoritairement d'ultra-orthodoxes juifs. Et comme à Tel Aviv, le 8 avril, des moyens conséquents ont été mobilisés pour la traque du ou des terroristes. Elad est aussi très proche de la Cisjordanie, qui était bouclée hier en raison de la fête de l'indépendance en Israël et au lendemain de la journée du souvenir dédiée aux victimes israéliennes des guerres et du terrorisme. Au-delà du bilan, cet attentat est donc extrêmement traumatisant pour les Israéliens. Et c'est un nouveau défi lancé au gouvernement de Naftali Bennett qui prolonge le bouclage de la Cisjordanie jusqu'à dimanche, un gouvernement sous pression de son opposition de droite qu'il accuse de laxisme et d'incompétence. Pour le mouvement palestinien islamiste Hamas, cet attentat est la conséquence directe des affrontements entre Palestiniens et Israéliens sur l'esplanade des mosquées qui dure depuis un mois. Jérusalem, Frédéric Mettezo, France Inter.
En Ukraine, un nouveau convoi de l'ONU est en route pour Mariupol pour évacuer les derniers civils retranchés dans la Syrie d'Azovstal.
La politique est des gauches réconciliées.
167 voix pour, 101 contre, 24 abstentions. Après une semaine de négociations intenses, le Conseil national du PS a validé tard hier soir l'accord conclu avec la France insoumise pour une alliance législative. À gauche, la bannière commune s'appelle donc la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Et puis à droite, la Macronie a scellé hier son ménage à 3 avec le Modem de François Bayrou et Horizon d'Édouard Philippe. La Confédération s'appelle Ensemble et La République En Marche se rebaptise Renaissance. Et puis c'est demain, 7 mai, à 11h, que se déroulera dans la salle des fêtes de l'Élysée la cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron sous le signe, Maxence Lambrecq, de la sobriété.
À son arrivée dans la salle des fêtes sur ce concerto pour hautbois d'Endel, Emmanuel Macron ne retrouvera pas que sa famille, son gouvernement et les très nombreux invités du protocole. Il a choisi de convier des soignants mobilisés face au Covid, des élus locaux engagés dans le grand débat, des responsables associatifs issus de quartiers populaires, des sportifs aussi, pour illustrer le slogan de sa campagne avec vous.
En application des articles 6, 7 et 58 de notre Constitution.
Une fois que Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel, aura proclamé les résultats, Emmanuel Macron prononcera un discours assez bref, puis 21 coups de canon seront tirés aux Invalides avant la Marseillaise et la revue des troupes dans le jardin du Palais. Le bagad de Lambiwe jouera alors une pièce qui avait accompagné les cercueils des premiers maîtres Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello, tués au Burkina Faso il y a 3 ans. Le chef de l'État saluera des soldats qui ont participé à l'évacuation de Kaboul l'an dernier, une section de la Légion étrangère, du nouveau commandement de l'espace et des forces engagées dans la dissuasion nucléaire, composante essentielle de notre politique de défense, rappelle l'Élysée, qui nous permet de peser dans le concert des nations. Allusion très claire à la guerre en Ukraine.
Maxence Lambrec, Airbnb retrouve de belles couleurs. La plateforme de réservation de logements affiche désormais une activité supérieure à ce qu'elle avait avant la pandémie de Covid-19. 102 millions de nuits ou d'activités réservées les 3 premiers mois de cette année. C'est 34% de plus qu'en 2019 à la même période. De bons résultats qui s'expliquent notamment par l'essor du travail nomade auquel la plateforme s'est adaptée. Et ils se sont répercutés évidemment sur le chiffre d'affaires, Maria Melkurdi.
1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires au premier trimestre 2022 pour Airbnb. Un chiffre d'affaires supérieur de 80% à celui de 2019 à la même période. On l'explique évidemment par les envies de voyage et d'évasion qui ont repris après 2 années marquées par des restrictions sanitaires. Mais aussi par nos changements d'habitude dus à la pandémie. Les télétravailleurs peuvent être aussi efficace, voire plus inspiré en étant dans une maison de location longue durée à la campagne, si Wi-Fi il y a bien sûr. D'ailleurs, maintenant, quand on clique sur une réservation, on sait quelle est la qualité du réseau Internet. Ce n'est donc pas un hasard si les locations en zone rurale ont progressé de 50% en 2 ans. Les locations longue durée de plus d'un mois représentent désormais plus d'un séjour sur 5. D'ailleurs, la plateforme s'est adaptée à ces demandes des travailleurs nomades avec la création, il y a un peu plus d'un an, de l'option « Je suis flexible ». Flexible sur les dates et le lieu de la location souhaitée. Ce bouton « Je suis flexible » a déjà été utilisé plus de 2 milliards de fois.
Maria Melkurdi, une sortie scolaire qui tourne au drame hier en Isère.
Une classe de 5e du collège de Saint-Imier visitait une grotte lorsqu'elle a été surprise par la montée des eaux dans les cuves de Sassenage, une grotte près de Grenoble. Les 3 adultes qui encadraient cette sortie ont fait sortir les enfants au plus vite, mais la spéléologue professionnelle a été retrouvée morte par les secours. Un habitant de Calvignac, un village du Lot, incarcéré après avoir menacé de mort le maire de la commune. Ce sexagénaire récidiviste sera jugé aujourd'hui par le tribunal correctionnel de Cahors. Il risque jusqu'à 5 ans de prison. Une affaire qui agite ce village de 200 habitants et qui est prise très au sérieux par la justice, alors que les violences contre les élus locaux sont en augmentation. Yann Gallic.
Le maire de Calvignac refuse de raconter publiquement ce qu'il subit depuis son élection en 2020. Des insultes et des menaces de mort à répétition proférées par un habitant de 65 ans. Cet homme avait déjà été condamné en décembre dernier, mais il a continué à harceler le maire du village au téléphone en le menaçant de lui éclater la cervelle à coups de marteau, selon le procureur en charge de l'affaire. Ces violences sont de plus en plus fréquentes, regrette Michel Fournier, le président de l'association des maires ruraux. Il est lui-même à la tête d'une petite commune de 330 habitants dans les Vosges.
J'ai été agressé par des administrés qui contestaient une décision qu'on pouvait avoir prise. J'ai été agressé avec un couteau sous la gorge par un jeune qui n'avait pas accepté une remarque. Auparavant, c'était des dérapages. Aujourd'hui, ça devient un peu systématiquement de la provocation. C'est ça qui est grave. Ça veut dire qu'on est passé un cran au-dessus.
Face à ces agressions, les élus locaux comptent sur la fermeté de la justice.
Il faut que la justice, et ça a l'air d'être le cas là dans le Lot, la justice s'empare des choses et tout acte envers quelqu'un qui représente l'autorité ou représente l'État à un moment donné doit être poursuivi.
Selon Michel Fournier, ces violences qui se banalisent risquent encore d'aggraver la crise des vocations qui touche les maires des communes rurales.
Yann Gallic, toujours aucune trace des 4 malfaiteurs qui ont braqué hier la bijouterie Chanel rue de la Paix à Paris. Les 4 personnes ont pris la fuite en scooter et en moto, mais les plaques d'immatriculation filmées par les passants étaient des fausses et on ne connaît pas encore le montant du butin. Football, match nul 0-0 du déception pour l'OM, éliminé en demi-finale de la Ligue Europa Conférence. C'était hier soir au Stade Vélodrome face au Feyenoord de Rotterdam. Les Hollandais avaient remporté le match aller 3-2 la semaine dernière.
On le savait, aux portes de la Bretagne, un loup a été vu dans les monts d'Arrée.
Déjà recensé en Loire-Atlantique et en Vendée, le voilà désormais dans le Finistère. Un jeune mâle a été filmé du côté de la commune de Bérien, au cœur de la Bretagne. Ce loup ne s'est pas trompé de destination. Le territoire des monts d'Arrée est connu pour la richesse de sa biodiversité. Néanmoins, un loup en Bretagne, c'est du jamais vu depuis 100 ans. Angélique Demuynck.
Le film laisse peu de place au doute. L'animal traverse tranquillement l'écran, oreille et nez en avant, comme s'il suivait une piste. Emmanuel Holder ne s'attendait pas à ça, en allant relever son piège photographique.
J'avais beaucoup de photos de cerfs, de biches, de sangliers, de chevreuils, et la dernière des 30 photos était un animal qui ressemble à un loup, mais bon, comme j'en ai jamais vu, je n'étais pas sûr de mon coup.
Le conservateur de Bretagne vivante envoie l'image au spécialiste de l'Office français de la biodiversité qui confirme.
Il y a tous les indices. Il n'y en a qu'un seul qui n'est pas visible, c'est la ligne noire qu'il y a sur les pattes avant, quoi, parce que il est de profil.
Il s'agit d'un jeune mâle de moins d'un an qui vient forcément de loin, selon les spécialistes, du Massif central, voire des Alpes ou même d'Europe de l'Est. De quoi surprendre les plus avertis.
J'ai cru qu'on était le 1er avril.
Franck Simonet du groupe Loup Bretagne prépare pourtant cette arrivée depuis longtemps.
Ça fait plusieurs mois en fait qu'on a sollicité l'État parce qu'on a bien conscience que ça peut poser des problèmes, que des dégâts de loups sur un élevage. C'est un gros problème pour un éleveur et qu'il n'est pas du tout question de négliger cet aspect-là et de négliger le problème que ça pourrait poser.
Pas de réunion ni d'intervention prévue pour le moment en préfecture. Selon les autorités, c'est un sujet de vigilance, rien de plus.
Angélique Demuynck.
Merci à vous Laurence Thomas pour ce journal. L'édito politique est à suivre.